C'est épouvantable, épouvantable, épouvantable comme histoire, vous trouvez pas? Cette maman, au milieu de la nuit, retrouvée, bon, pas très forte dans le lit, meurt à l'hôpital, une femme qui s'appelle Jaëlle Quentin, 33 ans. C'était l'histoire d'hier, puis le développement dans l'histoire, mais ben, finalement, on accuse de meurtre non prémédité son conjoint, pour en parler, Philippe Bonneville, qui était au palais de justice aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Salut Rock.
OK, conte-nous ça là.
Ça vient tout juste de prendre fin. Hein. Comparution de Benoît Cardinal qui a eu lieu sur le coup de midi ici au palais de justice de Joliette où je me trouve. Et c'est une accusation de meurtre non prémédité, donc meurtre au second degré qui a officiellement été déposé contre lui. Je vais décrire un peu comment ça s'est passé parce que ça a été une très, très brève comparution. Ça a duré environ une minute au total. Benoît Cardinal est arrivé en chaise roulante dans la salle d'audience. Il a été en mesure de se lever cependant pour cette étape de la comparution, avait les chevilles et les poignets menottés et il a les cheveux très, très longs. Là. Les cheveux très longs, la barbe très longue, portait un T-shirt blanc et il n'a pas prononcé un seul mot durant cette comparution-là où, justement, on l'a accusé formellement de meurtre non prémédité. Il va demeurer en prison. Il a passé la nuit dernière en prison, mais là, c'est la prison pour lui qui l'attend pour les prochaines semaines minimalement parce qu'il va revenir en cours seulement le 26 février prochain. Et la couronne a ordonné, le juge a plutôt ordonné un interdit de communication entre Benoît Cardinal, donc ce meurtrier allégué, et ses 6 enfants, aussi interdiction de communiquer de quelque manière que ce soit avec 3 membres de la famille de la victime Jaëlle Quentin. Donc, voilà un peu pour la comparution qui s'est déroulée ici il y a quelques instants.
Tabarouette. Qu'est-ce qu'on sait sur l'individu?
On n'en sait pas beaucoup, mais on en sait de plus en plus. Voilà comment je peux résumer ça. Ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que cet homme-là, qui travaillait dans un centre jeunesse du côté de Laval, il aurait été congédié la semaine dernière, vendredi dernier, donc il y a une semaine précisément. Pourquoi? Notamment parce qu'il aurait envoyé et échangé des messages explicites avec une jeune fille d'âge mineur qui fréquentait justement ce centre jeunesse de Laval. Donc, il y a eu enquête interne et il aurait perdu son emploi la semaine dernière. Ça, c'est une chose que l'on sait de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire. C'est quelqu'un également qui a tenté de berner les policiers. Il a vraiment laissé croire pendant un bon moment, durant son interrogatoire hier avec la Sûreté du Québec, il a laissé croire que la mort de sa conjointe, de la mère de ses 6 enfants, était liée à un braquage à domicile qui avait mal tourné. Or, les policiers n'ont pas été dupes, ont rapidement constaté, notamment avec l'interrogatoire des 6 enfants, que ce n'était pas du tout ça qui s'était passé, qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre conjugal. Donc, il a tué sa conjointe et ses 6 enfants, imaginez, étaient dans la maison familiale à ce moment-là, enfants de 1 à 12 ans. Et on nous dit que certains de ces enfants auraient même été témoins du meurtre de leur mère, imaginez.
Quelle atrocité, c'est incroyable. Alors là, c'est pas drôle, là. 6 enfants se retrouvent avec un père en prison puis une mère morte.
Exactement, un père qui risque la prison à vie, une mère qui est maintenant décédée. On vient de nous expliquer ici, c'est la couronne qui nous a expliqué ça, que ces 6 enfants-là n'ont pas eu à être pris en charge par la DPJ parce que des membres de la famille peuvent les héberger, peuvent en prendre soin et tout ça. Mais imaginez la détresse de ces enfants-là. Ce sont des victimes, ces enfants-là aussi. Là. Quand on y pense, là, ce sont des victimes collatérales de ce meurtrier allégué. Ils ont été rencontrés par des intervenants psychosociaux. On leur donne tous les services nécessaires. Il y a également la Sûreté du Québec qui a mis à leur disposition 2 chiens. Ce sont des chiens dont on se sert parfois dans des situations comme ça, des chiens qui sont habitués d'être en contact avec des enfants et tout ça. Ça peut offrir un certain réconfort. On s'entend là, c'est minimal, mais c'est mieux que rien. Donc, ces enfants-là ont été pris en charge, mais comme tu l'as dit, ils ont perdu leur mère dans des conditions atroces. Certains des enfants ont vu ce qui s'est passé et leur père ne peut plus leur parler. Interdiction de contact avec ces enfants-là. Ouais. Et en plus, il risque d'être en prison pour le restant de sa vie.
Cet homme, je pense que je t'ai entendu, Philippe, expliquer que L'homme tentait de se camoufler le visage dans sa comparution?
Oui, parce qu'il est arrivé ici, mais pas pendant la comparution, mais lorsqu'il est arrivé ici au palais de justice de Joliette, il est arrivé à bord d'un véhicule banalisé de la Sûreté du Québec. Ça s'est passé un peu avant 10 heures ce matin. Et évidemment, il y avait beaucoup de photographes, beaucoup de caméramans autour de ce véhicule-là. Et il portait un chandail coton ouaté, là, et de type kangourou. Et il se servait de son capuchon, justement, pour faire en sorte que les médias ne puissent pas prendre des images de son visage. Ça a fonctionné partiellement, je te dirais. Et dans la salle d'audience, eh bien, là, il portait un T-shirt blanc et tout le monde a pu voir son visage. Okay, là.
Okay.
Donc, c'est pas, c'est quelqu'un qui... On se demandait même s'il comprenait un peu ce qui se passait, là, tellement il semblait dans un autre monde lors de sa comparution. On peut comprendre, il n'a peut-être pas dormi non plus. Là, il a passé une nuit en prison et tout ça. Mais voilà, il n'a prononcé aucune parole durant cette comparution-là.
Puis on n'est pas à l'étape de demander une évaluation psychiatrique, là.
Non, on aurait pu demander si la Couronne de la Défense avait jugé que c'était nécessaire pour l'état de la comparution de savoir si cet homme-là était en mesure de comparaître au niveau psychologique. On aurait fait cette demande-là, mais force est de constater qu'il n'y a pas eu ce type de demande pour l'instant.
Okay.
Donc, on jugeait qu'à cette étape-ci, en tout cas, qu'il comprenait qu'il était accusé de meurtre et comprenait ce qui se passait selon les gens qui l'ont vu, que ce soit du côté de la Couronne ou du tribunal.
Merci beaucoup, Philippe.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. J'aurais aimé parler à Philippe pour une histoire plus joyeuse que cela. Seigneur, imaginez ça deux minutes. Tu sais, on parle d'actualité, nous autres, tous les jours, puis une histoire, puis l'autre, puis on fait de la politique. Puis hier, tu sais, un arrêt d'autobus, tu sais. On s'en sac-tu de l'arrêt d'autobus? On s'en sac-tu aujourd'hui de l'arrêt d'autobus? Hein? Une maman de 33 ans, en pleine santé, 6 enfants, se fait tuer dans son lit. Présumément, en tout cas, là, on allègue que c'est par son conjoint. On verra le processus judiciaire. Mais tabarouette, imagine comment la vie est hypothéquée. Hypothéquée pour ses pauvres enfants, là, 6 enfants. Eh, Seigneur. C'est plus tard. Moi, puis toi, ta mère. Moi, ma mère a été assassinée à 33 ans. Puis ton père. Mais moi, mon père est en dedans pour le meurtre de ma mère. Il va passer sa vie en dedans. Moi, j'ai perdu, même soir, ma mère, puis mon père. OK. On prend une courte pause. Puis au retour, vous êtes des joueurs de hockey occasionnels, jouez dans une ligne de garage. Seriez-vous prêt à mettre en jeu toute votre sécurité financière, puis votre fortune, puis votre argent, puis tout? Parce que, je sais pas moi, t'es un peu trop rude dans la bande, puis quelqu'un se blesse, puis il te saigne pour 700 000. Mais c'est arrivé en Ontario. Est-ce que ton assurance maison couvre ça? Vas-tu les yeux fermés, pas de problème? Mais je vais tenter de répondre à cette question-là après ceci.